Bonjour. Au nom de Gaza s'attachent aujourd'hui des images entremêlées, entrechoquées, de malheur, de misère, d'isolement, dans ce gigantesque camp de réfugiés où s'entassent des centaines de milliers de Palestiniens dans des conditions effroyables, pris qu'ils sont entre la dictature policière du Hamas et la brutalité, souvent aveugle, de l'agression israélienne. Or, il se trouve que cela est en violent contraste avec 3500 ans d'une histoire souvent heureuse et rayonnante, quelque sanglant qu'aient été les affrontements que ce territoire a déjà connus au long des siècles. L'histoire d'un lieu qui fut par excellence de contact et d'échange fécond, tout à la fois culturel et économique. Maurice Sartre, professeur émérite à l'Université de Tours, membre de l'Institut universitaire de France, qui est familier de Concordance des temps et grand spécialiste de cette région du monde dans l'Antiquité, Maurice Sartre va nous permettre ce matin de prendre ce recul de plus de 3 millénaires. Pour une fois, il ne devrait pas s'agir seulement d'une satisfaction intellectuelle, celle d'aller chercher loin en arrière l'écho de précédents, ils sont nombreux, de précédents propres à relativiser certains drames contemporains, mais aussi de quelque chose comme un effort moral pour rendre à cette terre martyrisée le lustre d'un passé brillant dont pourra peut-être un jour s'éclairer à nouveau un destin qui est pour l'heure ravagé.
Et le Seigneur parla à Moïse et il lui dit, quand Pharaon te dira, montre-moi un miracle, alors tu avaleras ta langue, vieux bouc. Mais d'abord conforme-toi aux ordres. Prosterne-toi contre un Philistin à passe.
Nous sommes un peuple asservi, mais nous ne nous prosternons que devant notre Dieu invisible.
Chaque Philistin est votre Dieu. Prosterne-toi.
Voilà comment les Danites doivent honorer leur maître.
Belle preuve de courage. S'attaquer à des enfants et à des vieillards.
Ouais. Voilà un bien beau fruit que j'aurais grand plaisir à goûter.
Si vous approchez de Myriam, Samson vous écrasera comme on écrase une noix.
Samson ? Il préfère réserver sa vigueur pour satisfaire les filles.
La puissance de Dieu anime le bras de Samson. Et un jour, vous l'éprouverez.
Coas dans ta mare, immonde crapaud.
Viens, Saül, sauvons-nous.
Appelle ton Samson pour te retirer de ta fange, vieux bouc.
Venge-nous, Saül.
Lance-leur des pierres.
Non, Saül, non. J'en abattrai un.
Et la mort s'abattra sur le village.
Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
C'était un extrait de Samson et Dalila, un film fameux de Cécile B. 2000, 1949, avec une tonalité très Hollywood de l'époque.
Oui, et on est d'emblée placé dans une histoire presque tragique, mais à front renversé par rapport aux événements qu'on a connus ces derniers temps. C'est-à-dire que là, ce sont les Hébreux qui sont soumis à ceux qui ont donné leur nom à la Palestine, c'est-à-dire aux Philistins.
Dans le territoire actuel de Gaza.
Dans le territoire actuel de Gaza, et dans, d'une manière un peu plus large, disons, le sud de la Palestine actuelle. Puisque l'extrait qu'on vient d'entendre, au début on évoque vaguement la sortie d'Égypte, mais parce que c'est un vieillard qui raconte aux petits-enfants une période glorieuse de l'histoire des Hébreux.
Il n'a pas dû la vivre, parce qu'il faudrait qu'il ait 250 ans. Pour
oui, donc il raconte vraiment une histoire qu'on doit se transmettre de génération en génération, qui est la sortie d'Égypte, quand il est interrompu brutalement par un Philistin qui lui dit « Arrête tes sornettes et obéis à tes maîtres, c'est-à-dire à nous, les Philistins. »
Incline-toi, on le voit d'ailleurs mettre à la fin le pied sur la tête du malheureux vieillard enfoncé dans la boue.
Et on a là donc un renversement par rapport, encore une fois, à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
Alors la situation que nous connaissons aujourd'hui, je voudrais que nous revenions un peu sur le dernier demi-siècle, c'est-à-dire la situation de la bande de Gaza, comme on dit, comme produit de l'offensive militaire israélienne d'octobre 48 contre le sud de la Palestine. C'est un espace très réduit, 365 km² seulement, avec en 1949, 1% donc de la superficie de la Palestine mandataire, qui accueillait 18% de sa population totale et 27% de sa population arabe.
Oui, alors évidemment, on a l'image de cette bande de Gaza et on a l'impression de quelque chose de très artificiel. Alors, c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai que la bande de Gaza elle-même, c'est une construction récente liée à la fin de la guerre qui a conduit à la naissance d'Israël. Et c'est aussi le fruit du refus de l'Égypte d'annexer Gaza. à la différence, par exemple, de la Cisjordanie qui avait été pendant un temps annexée, qui avait partie du royaume de Jordanie. C'est pour ça que le royaume de Jordanie s'appelle royaume de Jordanie, c'est parce qu'il est des deux côtés du Jourdain. Cisjordanie et Transjordanie. Alors qu'au début, il s'appelait l'émirat de Transjordanie. La Jordanie a vraiment annexé la Cisjordanie.
L'Égypte aurait pu aussi annexer Gaza.
L'Égypte aurait pu, on pouvait penser que l'Égypte aurait annexé Gaza. Or, elle ne l'a jamais fait parce qu'elle tient compte, en fait, d'une réalité historique qui est inscrite, en quelque sorte, dans l'histoire. C'est que Gaza, c'est la frontière de l'Égypte. Ce qui marque la frontière entre l'Égypte et la Syrie, c'est le torrent de Gaza. C'est ce qui est dit déjà dans la Bible, mais on le sait aussi par d'autres documents. Et par exemple, on a une borne d'époque hellénistique, si j'ai bonne mémoire, la fin d'époque hellénistique ou d'époque romaine, qui marque la frontière entre l'Égypte et la Syrie sur le torrent de Gaza.
C'est
le Wadi Raza qui est au sud de la bande de Gaza, qui est aujourd'hui la limite, c'est vers Rafah en fait. Rafia dans l'Antiquité, Rafah aujourd'hui dans la bande de Gaza.
Ces fameux tunnels qui relient l'Égypte à la bande de Gaza aujourd'hui sont proches de cet endroit?
Oui, ben ils passent là-dessous. Exactement.
Sous ces tunnels
qui d'ailleurs, bon, on pourra y revenir éventuellement, sont extrêmement faciles à creuser parce qu'on est dans une région sablonneuse, enfin, où la terre est mêlée au sable, c'est une terre légère et c'est donc assez facile de creuser des tunnels. Donc, alors, je disais, pour revenir à la bande, c'est vrai que cette bande, donc, c'est une sorte de construction et aujourd'hui, elle est tellement bien visible que, puisqu'il y a partout des barbelés, y compris électrifiés, avec quatre points de passage, c'est vraiment un camp, c'est vraiment un enfermement.
Concrétisé par les barbelés.
Mais d'un autre côté, même dans l'histoire, la région s'est souvent trouvée un peu isolée en quelque sorte. Parce que, d'abord, on est dans une région semi-désertique, faut jamais l'oublier, et dès qu'on s'enfonce un petit peu vers l'est, à l'intérieur des terres, très vite, on trouve le désert du Negev. Et donc, géographiquement, seule la côte est réellement exploitable, cultivable, sauf évidemment aménagement très particulier d'un milieu désertique. Gaza est bien au centre d'une sorte de bande utile, en quelque sorte, qui est là, au bord de la Méditerranée.
Donc une grande fertilité de cette...
Oui, c'est une région fertile, parce que malgré tout, c'est assez arrosé. Ça l'est pas énormément, mais ça l'est suffisamment pour qu'on y fasse des cultures sans irrigation. Et alors, avec irrigation, c'est évidemment un véritable jardin, ce qui est souvent Gaza. On a aujourd'hui uniquement, quand on parle de Gaza, on ne voit que les immeubles détruits, les camps, les humiliations de toutes sortes, ce qui sont bien réels, hélas. Mais c'est aussi un territoire très riche et c'est un grand exportateur, par exemple, de fruits, de légumes, notamment vers Israël, quand les Israéliens ne bouclent pas la frontière, mais ça pourrait être aussi un des grands fournisseurs en primeur de toute la péninsule arabique.
Mais c'est ce brio pluriséculaire que je voudrais, Maurice Sarthe, que nous restituions aujourd'hui pour nos auditeurs. Et pour le faire, on peut remonter très loin en arrière, puisque dans la liste des villes qui étaient soumises par le pharaon Thoutmôsis III, dans les années 1450 avant notre ère, on l'évoque lors de ses multiples campagnes contre la Syrie. C'est peu après qu'on voit apparaître le nom de Hazatu, je ne sais pas si c'est bien prononcé, qui est encore son nom arabe actuel, Gaza.
Oui, alors l'occupation de Gaza, puisqu'il y a eu des fouilles dans les années 95 au moment des accords d'Oslo, il y a eu des missions notamment franco-palestiniennes à Gaza, montre que le site de Gaza, qui se trouve plutôt dans le nord de la bande de Gaza actuellement, est occupé dès l'époque du bronze, c'est-à-dire le troisième millénaire. Mais disons que le nom de Gaza apparaît donc vers le milieu du deuxième millénaire, dans les années 1450, comme vous venez de le rappeler, comme un royaume soumis à l'Égypte par Thoutmôsis III. Mais il y a un grand changement qui se produit dans l'histoire de Gaza au XIIe siècle, avec ce qu'on appelle l'invasion des peuples de la mer. Ces peuples de la mer, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce sont des gens qui fuient devant de nouvelles invasions, notamment dans les Balkans, dans le monde Égéen. Et ils ont essayé de s'installer en Égypte, ils ont été battus par Ramsès III, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de s'installer en Phénicie, en Syrie du Nord, c'est là qu'ils, à ce moment-là qu'ils détruisent le royaume d'Ougarit, par exemple, tout à fait au nord de la Syrie, là. Et finalement, ils ont fini par échouer dans cette région qui était sans doute la moins solidement défendue et ils sont installés dans cette zone de terrain qui va donc du torrent d'Égypte, ce qu'on appelait le torrent d'Égypte, le Wadi Raza, jusqu'aux alentours de Tel Aviv, un peu au sud de Tel Aviv, et qui s'appelle à partir de ce moment-là, la Philistie, d'où découle directement le nom de Palestine. Donc ces Philistins, ceux qu'on va appeler désormais les Philistins, et qui sont probablement un mélange de Crétois, de Grecs mycéniens, de gens venus d'un peu partout des bords de la Méditerranée orientale, donc s'installent dans cette région. Et ça a nourri, mais maintenant on a les preuves archéologiques, l'idée que les Philistins étaient apparentés aux Crétois et que leur grand dieu, par exemple, Marnas, était un dieu crétois, était un Zeus crétois.
Je relève que dans le Deutéronome 2, 23, je renvoie à la Bible, on signale cette arrivée, en effet, de peuplades venues de Crète.
Mais on le sait maintenant par les céramiques, l'analyse des céramiques, et effectivement, il y a de grandes parentés entre les céramiques d'origine crétoise, submycénienne, ce qu'on appelle submycénienne, c'est-à-dire mycénien tardif, et les céramiques de Philistie.
Ceux qui habitaient dans des bourgades jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtoriens, je pense que ce sont les Crétois.
C'est le nom des Crétois.
Qui étant sortis de Caphtor, vinrent habiter à leur place, fin de citation.
Exactement.
Deutéronome.
Et maintenant, l'archéologie le confirme assez largement, même si, évidemment, il y a aussi d'autres influences.
Donc Gaza devient le centre d'une principauté des Philistins.
D'une principauté, on peut dire presque de réfugiés, déjà.
Et aussitôt, presque aussitôt, en tout cas peu de temps après, devient un enjeu quasi permanent entre l'Égypte et les Assyriens,
alors,
puis les Babyloniens.
Ça devient un enjeu entre l'Égypte et les Babyloniens, c'est-à-dire que les Égyptiens ont toujours su que l'Égypte ne se défendait pas sur le tracé actuel du canal de Suez, mais se défendait au sud de la Syrie. D'où les efforts des Égyptiens, on le voit depuis avec Thoutmôsis III qu'on évoquait tout à l'heure, mais on pourrait le dire aussi bien à l'époque lagide, par exemple, après Alexandre, des efforts des Égyptiens pour toujours contrôler le sud de la Syrie, et notamment, évidemment, Gaza, parce que c'est la dernière place forte, en quelque sorte, avant l'entrée dans le delta égyptien.
Donc Gaza, dès ce moment-là, comme aujourd'hui, enjeu des puissances
confrontées. C'est un enjeu stratégique. Mais en fait, Gaza est un enjeu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'elle est au carrefour, en réalité, de trois mondes, si on se place dans cette période du début du premier millénaire, en gros, autour du 10e, 9e siècle. Bien sûr, il y a l'Égypte. Donc, ce que je viens de dire, c'est l'endroit où on défend l'Égypte. Mais il y a aussi, évidemment, les Hébreux qui sont installés, qui ont construit, qui ont bâti un royaume, d'abord tout à fait limité autour de Jérusalem, etc., mais royaume qui prend de l'ampleur et qui a fini par couvrir presque tout ce qu'on peut appeler la Palestine au sens géographique du terme, sauf il y a une région qui résiste toujours. C'est justement la Philistie, la zone de Gaza, ce qu'on appelle les cinq villes, parce que Gaza n'est pas seul, il y a aussi Ascalon, naturellement. Cette zone-là résiste pratiquement toujours. Contrairement à ce que pourraient penser certains, Gaza n'a pratiquement jamais appartenu, n'a pratiquement jamais été soumise aux Hébreux, à quelque époque que ce soit.
Ça peut être intéressant à rappeler aujourd'hui.
Ça peut être intéressant de le rappeler, oui. Et elle forme donc le cœur d'une sorte de confédération de cinq villes qui est très ouverte sur la Méditerranée. Mais il y a un troisième pouvoir qui intervient ici, c'est celui des Arabes. Les Arabes, qui seront plus tard les Arabes nabatéens, hein, qui sont à un moment les Kédarites, et qui, eux, occupent le nord de l'Arabie saoudite actuelle, une partie du Sinaï, et pour qui Gaza, c'est le débouché vers la Méditerranée. C'est par Gaza que les produits qui viennent, par exemple, du Yémen, d'Arabie heureuse, se répandent en Méditerranée. Et donc Gaza a été très tôt, dès l'époque entre le 8e et le 5e siècle, avant la conquête d'Alexandre, un grand marché des produits grecs. Et par exemple, on a trouvé dans les fouilles beaucoup de céramiques grecques d'époque archaïque, d'époque classique, qui montrent qu'il y avait des échanges. Et on sait que dès le 5e siècle, dès le milieu du 5e siècle, et pendant tout le 4e siècle, Gaza et ses deux voisines, dont Ascalon.
Ascalon, c'est
le pays de l'échalote.
Oui, les oignons, des oignons spéciaux qui sont Ascalon, voilà, et échalote, oui.
Voilà, exactement. Et avec ses deux voisines, donc, ont émis des monnaies qui sont des copies des monnaies athéniennes, des chouettes athéniennes. Parce que c'est la monnaie de référence. J'allais dire, c'est comme si on faisait des faux dollars. D'ailleurs, on fait, je crois, des faux dollars en quantité. C'est la monnaie connue, c'est la monnaie dans laquelle on a confiance. Et donc, on a émis à Gaza, pendant un siècle et demi à peu près, des pseudo-chouettes, ce qu'on peut appeler des pseudo-chouettes, enfin des chouettes de Palestine.
Et puisque vous évoquez l'importance de cette ville de Gaza, de ce territoire de Gaza dans l'Antiquité pour les Arabes. Je voudrais vous faire écouter un archive qui remonte au 26 novembre 1956 dans Paris vous parle. Le correspondant de la radio publique dans cette région, André Semama, qui est d'ailleurs aussi le correspondant du Monde, évoque les aspirations arabes à faire éventuellement de cette région de Gaza le point de départ d'une Palestine restituée comme État.
Ici Jérusalem. Il a beaucoup été question de Gaza aujourd'hui. Il faut signaler tout d'abord le climat de parfaite détente qui s'est établi ce matin dans la ville même avec la reprise des sessions ordinaires du conseil municipal. Le maire de la ville, M. Roushdi Chaoua, s'est félicité des mesures d'adoucissement apportées au régime militaire imposé à la région, ce qui permettra une rapide remise en train de la vie économique. De leur côté, les personnalités de l'entourage, l'ancien mufti de Jérusalem, qui a joué un rôle important dans la lutte arabe contre le sionisme et l'État d'Israël, ont adressé une lettre au quartier général des observateurs de l'ONU à Jérusalem, proposant une solution aux différents israélo-arabes. Les amis du mufti demandent que la région de Gaza et la péninsule du Sinaï soient proclamées République arabe de Palestine, qui sera habitée par la majorité des réfugiés. Cette république, ajoute les signataires de la pétition, pourrait servir d'état tampon entre l'Égypte et Israël, qui apporterait la solution de bien des problèmes.
Gaza comme état tampon rêvé.
Oui, c'est curieux. Je connaissais pas du tout cette suggestion, cette proposition qui avait été faite par les Palestiniens, mais c'est assez intéressant parce que effectivement, on retrouve une situation géopolitique qui est celle qu'on a connue notamment au 5e, 4e siècle. C'est-à-dire, par exemple, lorsque toute la Palestine, toute la Syrie d'ailleurs, et la Palestine n'en fait qu'une partie, est soumise aux Perses, à la fin du 6e siècle,
avant notre ère,
lorsque les Perses veulent aller s'emparer de l'Égypte, ils commencent par négocier avec le roi des Arabes, qui contrôle précisément la région de Gaza et les territoires du Sinaï, c'est-à-dire, en gros, cette république de Palestine qui vient d'être évoquée dans l'interview d'André Semama.
Il faut dire qu'on se situe juste après la guerre de Suez.
Oui, oui, oui. Ça peut nous apparaître à nous aujourd'hui un peu artificiel, cette proposition, et on se dit comment aurait été viable un État qui était en grande partie désertique. Mais en réalité, c'était retrouver d'une certaine manière une situation géopolitique qui avait existé à d'autres époques.
C'est le temps du pouvoir perse qui succède au pouvoir assyrien.
Alors le pouvoir, alors Gaza, donc on l'a dit, elle était, sauf de courts épisodes, soumise à des royaumes, royaumes d'Israël et de Juda, mais ça c'est vraiment presque rien. Elle est, on peut dire, pendant toute la période qui va du 10e jusqu'au début du 6e siècle, la zone de résistance à la conquête des Hébreux, puisqu'on sait que c'est un État qui s'étend progressivement sur à peu près tout ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël et la Cisjordanie, et parfois qui en déborde même largement sur le sud du Liban ou sur la Syrie du Sud. Mais Gaza résiste à peu près tout le temps. Et puis, lorsque la Palestine est prise par les Assyriens, par les Babyloniens surtout, au début du 6e siècle, Gaza tombe aussi, et elle va suivre en quelque sorte le mouvement. Elle est donc babylonienne à partir de 587, puis elle est perse à partir des années 539, 538, quelque chose comme ça, et puis elle deviendra ensuite grecque, en quelque sorte, avec la conquête d'Alexandre, mais ça c'est un autre épisode.
Nous allons y arriver, mais auparavant il est intéressant d'observer qu'au fond, les Hébreux n'ont jamais été, ou très très peu de temps, dominants dans la région de Gaza.
Non, pratiquement jamais. Et les Philistins, d'ailleurs, dans la Bible, apparaissent toujours comme leur ennemi principal. Et d'abord, au début même de leur occupation, ils ont eu à lutter contre beaucoup de peuples après le retour d'Égypte. Mais les Philistins apparaissent comme les opposants majeurs, y compris dans les périodes où se construit l'État, le royaume, dit de David et de Salomon, mais bon, là-dessus, c'est un autre débat qui n'est pas tranché encore par les archéologues sur la réalité même de David et de Salomon, mais ça, c'est un autre problème.
Mais c'est là que nous retrouvons Maurice Sartre, le personnage de Samson.
Oui, personnage qui est un héros pour l'histoire de Gaza.
Eh bien, second extrait du film de Cécile B. 2000, 1949, Samson et Dalila, c'est Victor Mature qui incarnait Samson et Eddie Lamar, Dalila.
Samson, les Philistins sont sur toi.
Je sortirai comme les autres fois.
Le lion de Dan est tondu comme un mouton.
Le lion de Dan est tondu comme un champ fauché.
Mais pour que les soins n'importe.
Je t'ai enlevé ce qui était ta force, Samson. Ta petite Danit n'aura jamais ton amour.
Oh, Philistin scélérat. Hein? Pointez vos piques. Le bouclier de mon Dieu ne me protège plus. Que craignez-vous? Mon sang coulera aussi rouge que le vôtre. Tout Gaza honorera l'homme qui rapportera ma tête.
Nous ne voulons pas te tuer, Samson. Les Danites ont besoin d'un souvenir vivant de leur révolte. Dis-le!
Implore ton Dieu, Samson.
Je l'ai trahi pour toi. Il ne m'entendra pas.
Est-ce que tu ne peux plus vaincre une centaine d'hommes? Tu n'as plus la force d'arracher les portes de Gaza. Tu ne peux plus tuer un lion maintenant. Tu es faible, comme n'importe quel homme.
Attachez-le à ce pieu.
Je t'aurais aimé avec une telle passion que tout autre amour eût semblé de glace. Je me serais exilé avec toi en Égypte, laissant tout derrière moi, ne vivant que pour nous. Mais un seul appel de cette Danite aux grands yeux de gazelle a suffi pour que tu la suives. Nul homme ne quitte Dalila.
Regarde-la, Samson. Regarde-la bien. Et rappelle-toi le parfum de sa chair, la douceur de ses lèvres, l'ardeur de son baiser. Avec toute ta force, tu es un faible, Samson. Tu as cru en Dalila. Rappelle-toi sa beauté, mais n'oublie jamais sa trahison. Garde son image dans ta mémoire, Samson. C'est la dernière que tu auras eue du monde.
Le personnage de Samson auprès de Dalila, qui le trahit, est connu par le livre des juges, uniquement par l'Ancien Testament, Maurice Sartre.
Oui, alors c'est l'extrait qui nous est donné ici, évidemment très intéressant. On pourrait passer de longs moments à le commenter.
Dans le style très kitsch de l'époque.
Oui, dans le style alors très hollywoodien. Bon, c'est une belle histoire d'amour, on a compris. Que si Dalila se venge de Samson, c'est parce qu'il a trouvé une autre fille plus belle qu'elle et qu'il en est tombé amoureux. Alors, il faut rappeler le contexte simplement, enfin, contexte supposé encore une fois, à savoir que les Hébreux sont soumis aux Philistins. Ce Samson, c'est un costaud, amateur de jolies filles, il fréquente Gaza essentiellement, d'ailleurs, il faut le dire, pour ses bordels. Il y est venu plusieurs fois, d'ailleurs la Bible le dit de façon tout à fait explicite.
Gaza comme port avec beaucoup de
bordels. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien, Gaza c'est le centre animé, c'est l'endroit, c'est la ville quoi où on va, lui est qu'un paysan des environs. Et donc c'est là qu'il a rencontré, il vient d'habitude y voir les filles, mais là il en avait rencontré une particulièrement jolie qui était Dalila, avant qu'il en rencontre une autre. Ce qui est intéressant, c'est le personnage même de Samson. Alors, on connaît l'histoire, donc toute sa force lui venait de ses cheveux, parce qu'il était, sa mère l'avait consacré à Dieu, ce qui est d'ailleurs, on devrait dire, à un Dieu, parce qu'à cette époque-là, présumé, c'est-à-dire 11e, 10e siècle, les Hébreux sont bien loin d'être monothéistes, ça c'est de la réécriture tardive. Hein. Donc sa force lui venait, soi-disant, de ses cheveux, et Dalila, pour se venger, l'a évidemment lui a rasé le crâne, lui a coupé ses tresses, on nous dit précédemment qu'il avait des tresses, et a prévenu les Philistins, donc il avait perdu sa force, parce qu'il semait la terreur en jetant des cailloux partout. Tout, j'allais dire presque qu'il faisait son intifada à lui tout seul. Et il était tellement costaud qu'il semait la terreur. Donc les Philistins sont très, très contents, évidemment, de se saisir de lui. Et au moment où s'arrête l'épisode, ils s'apprêtent à lui crever les yeux. Et il l'enchaîne ensuite pour tourner des meules, parce qu'il est d'une force quand même assez conséquente, même avec ses cheveux coupés.
Donc, il repousse. Au fond.
Et puis surtout, ils ne se sont pas méfiés, c'est que ses cheveux repoussent. Et un jour, il l'emmène dans le grand temple de la ville, le temple de Dagon, pour l'humilier davantage. Et c'est là qu'il branle les colonnes du temple, faisant tomber le temple sur toute la population et faisant beaucoup de morts. C'est pas sans évoquer, quand on y réfléchit, évidemment, les terroristes d'aujourd'hui qui se font sauter au milieu de la foule. Samson, d'une certaine manière, mais on est là encore une fois, à front renversé, est le prototype de celui qui préfère le suicide, parce que ça revient à ça, je crois qu'il faut éviter le mot martyr qui a été totalement dévoyé dans cette affaire. Il préfère le suicide qui entraîne la mort de milliers de personnes, plutôt que de continuer à vivre dans l'humiliation qu'il connaît à Gaza.
Le rapprochement est en effet frappant. Ça renvoie aussi au suicidé de Masada.
Alors ça renvoie, oui, il y a, on le sait, dans le judaïsme aussi, toute une tradition du suicide d'honneur, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a Samson et puis il y a plus tard les suicidés de Masada.
C'est un rapprochement, effectivement, qui en surprendra plus d'un, probablement, mais qui n'est pas tout à fait neuf, puisque un film d'un cinéaste israélien bien connu, qui est Avimograbi, a été précisément consacré notamment à cette similitude. Ce film s'appelle Pour un seul de mes deux yeux. Écoutez, Maurice Hart, écoutez l'interview d'Avimograbi.
Votre film donne complètement le vertige, c'est-à-dire que vous dites aux spectateurs, et spécialement aux Israéliens, vous leur dites comment pouvez-vous d'un côté admirer les gens de Masada qui vont se suicider et jeter la pierre aux Palestiniens qui en font tant, comment pouvez-vous admirer Samson, le héros, qui, quand les Philistins le prennent prisonnier, décide de se suicider. Il va leur rendre pour un seul de ses deux yeux tout ce qu'il leur a fait, en détruisant des milliers de Philistins. Donc faites un parallèle aussi avec les kamikazes palestiniens.
Yes, but when you think about what Samson is doing,
oui, mais pensons à ce que fait Salomon ou à ce qu'il pense quand il se tient debout entre les piliers du temple philistin après que ses cheveux aient été coupés, qu'il ait perdu toute sa puissance et après que ses yeux aient été crevés par les Philistins. C'est à ce moment-là qu'il décide de se tuer tout en tuant autant d'ennemis que possible. Et c'est exactement ainsi que pensent les kamikazes. Ils se tiennent en plein milieu d'un bus à Tel Aviv ou à Jérusalem et ils se disent « Je vais mourir, mais je vais aussi tuer autant d'ennemis que possible en même temps. » Alors quand nous admirons Samson, nous ne réfléchissons pas à ce que nous admirons. Si mon film n'a qu'un seul message pour les Israéliens, c'est celui-là. Peut-être que nous devrions réévaluer nos idées, parce que si nous admirons les kamikazes, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre chez nous et que nous devons changer les choses dans notre pays.
Avimograbi, le cinéaste, était interviewé ici par Paul Ajac pour France Inter à l'occasion de l'apparition de ce film en novembre 2005. Il n'évoque pas seulement Samson pour cette analyse à front renversé, comme vous dites. Il évoque aussi la manière dont les Israéliens se comporteraient avec les Palestiniens en disant que cela évoque la façon dont les Romains se tenaient face aux Juifs de Masada, humiliation au checkpoint, interdiction de labourer leur champ, agressivité des soldats qui tentent de lui interdire de filmer.
Oui, c'est malheureusement effectivement ce que l'on voit et que les Israéliens même peuvent constater assez facilement pour peu qu'ils se rendent dans les territoires palestiniens. Je pense que le parallèle en tout cas entre Samson d'une certaine manière et cette idéologie du suicide pour le bien de la patrie, je ne vois pas comment on ne peut pas faire le rapprochement effectivement avec les Palestiniens d'aujourd'hui.
Il faut dire que Avimograbi, naturellement, ne prône pas ce type de comportement et au contraire cherche à le dénoncer. Alors avançons dans le temps, Maurice Hart, si vous voulez bien, avançons jusqu'à Alexandre. On n'évoque pas toujours, quand on raconte la vie d'Alexandre, ces 3 mois qu'il a passé pour conquérir Gaza.
Oui, parce que Gaza, c'était donc la dernière citadelle perse sur le chemin de l'Égypte, qui était gardée par un fidèle du roi, un dénommé Baptiste. Et il y avait là une puissante garnison. Et après avoir longtemps bataillé pour s'emparer de Tyr d'abord, eh bien Alexandre a dû assiéger pendant 2 ou 3 mois Gaza, qui était resté fidèle aux Perses, alors que les Perses, le roi en tout cas, s'était enfui vers l'est en Babylonie. Mais c'était donc un passage obligé vers l'Égypte, et Alexandre a fait quelque chose qui nous est décrit par le menu, par les historiens d'Alexandre, et qui, là encore, n'est pas sans évoquer tout de même la situation d'aujourd'hui. Évidemment, pour des raisons un peu différentes, c'est qu'il a creusé des tunnels.
Déjà.
Et Kankios nous explique que c'était assez facile parce que le sol est meuble, qu'il n'y a pas de rocher dans le sous-sol, ce qui est plutôt rare au Proche-Orient où on est très vite sur le rocher et donc il faut des baramines. Et donc il avait creusé des tunnels, alors lui non pas pour faire arriver des vivres, mais tout simplement pour saper les murailles de Gaza qui étaient puissamment défendues. Et il s'empare de la ville au bout de donc 2 à 3 mois de siège à la fin de l'année 332.
Avec un butin qui témoigne de la prospérité de la ville à ce moment-là.
Et
déjà.
Alors, le butin est formidable. Il y a eu pillage, mais il a, nous dit-on, prélevé des quantités astronomiques de myrrhe et d'encens pour les envoyer à son précepteur Léonidas, qui autrefois lui avait reproché de brûler de l'encens sans compter, avec l'insouciance sans doute de la jeunesse.
On ne peut qu'approuver cette fidélité d'un élève à son maître.
Bien entendu, mais pour lui montrer que maintenant il pouvait dépenser de l'encens sans compter, il lui en a envoyé, je crois, 100 talents et 500 de myrrhe, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de nous montrer que Gaza continue à être le débouché des produits qui viennent d'Arabie du Sud, du Yémen, puisque l'encens et la myrrhe viennent essentiellement de cette région-là. Elle est vraiment le débouché toujours des Arabes sur la Méditerrannée.
Et c'est le début de la police grecque, Alors, Gaza, la ville grecque de Gaza.
Voilà, Gaza entame avec la conquête d'Alexandre une nouvelle phase de son histoire, tout à fait différente et en même temps dans la continuité de ce qui s'était passé avant. Elle devient une cité grecque. Elle a les institutions d'une cité grecque avec une boulée, un conseil municipal, de notables, etc. Et cela jusqu'à la conquête arabe, c'est-à-dire en 638. Donc, à quelques années près, on peut dire que pour 1000 ans, Gaza devient une ville grecque, une grande ville grecque de cette région, à la fois grand centre économique, mais aussi centre intellectuel. On a eu la chance... Au moment des accords d'Oslo, lorsque donc les fouilles ont été possibles après l'évacuation des troupes israéliennes de 1994, de conduire des fouilles archéologiques, il y a eu des missions franco-palestiniennes qui ont fait des découvertes tout à fait remarquables pour cette période en particulier. Ils ont trouvé des tas de choses d'autres périodes aussi, il ne s'agit pas de minimiser l'importance, mais on y a trouvé quelque chose de rare, c'est des niveaux hellénistiques. Alors qu'au Proche-Orient, on en a très peu.
Parce l'école française a pu profiter de
ce bref moment. On continue d'ailleurs à en publier encore les résultats, car tout n'a pas été publié. Mais on y a trouvé notamment de très belles maisons peintes dans le style grec des maisons du IIe siècle, dans le style des maisons que l'on connaît à Délos ou que l'on connaît à Éphèse ou dans d'autres villes grecques de cette époque-là. Et c'est, je le dis, très rare au Proche-Orient, parce que la splendeur, la richesse de l'époque romaine a été telle que les niveaux de l'époque hellénistique, c'est-à-dire 3e, 1er siècle avant Jésus-Christ, se sont trouvés en quelque sorte détruits et tellement profondément enfouis que, parce qu'on ne va pas détruire les villes romaines bien conservées pour évidemment fouiller dessous. Donc Gaza a fourni de ces belles maisons.
On ne trouve plus par exemple le stade qui devait sûrement exister.
Alors il y avait sûrement un stade, il y avait sûrement tous les édifices d'une grande ville grecque. Il se trouve que la ville de Gaza, antique, et sur une petite butte à proximité de la mer, mais tout est tellement urbanisé aujourd'hui qu'il est extrêmement difficile de faire des fouilles, en réalité. Donc là, les fouilles ont été faites un peu au nord, notamment sur l'ancien port de Gaza, qui s'appelait Antédon, et c'est là qu'on a trouvé des entrepôts, qu'on a trouvé un quai, qu'on a trouvé ces maisons.
Une très belle exposition a eu lieu à Paris en 2000 qui Exactement. Est consacrée à la Gaza méditerranéenne et qui a rendu compte des trouvailles dues à ces fouilles. Je vais vous faire entendre le commentaire qu'en donnait Leila Chaïd, qui est aujourd'hui représentante de l'autorité palestinienne à Bruxelles auprès de l'Union européenne et qui à l'époque était ambassadeur, on peut dire ambassadrice de l'autorité palestinienne à Paris, qui a ce commentaire pour la fabrique de l'histoire de notre ami Emmanuel Laurentin.
Elle essaye de récupérer une identité millénaire, puisque les fouilles ont montré qu'il y a déjà des sites très importants du bronze ancien, ça veut dire 3000 ans avant Jésus-Christ, et Gaza découvre avec vous, puisque vous êtes les premiers à voir le résultat des fouilles de la coopération archéologique franco-palestinienne, que son histoire n'a rien à envier à Bethléem et Jérusalem. Et je dirais que c'est extraordinaire pour la Palestine et pour en particulier les habitants de cette région qu'on appelle la bande de Gaza, et le mot bande est presque humiliant, de cette région, parce que Gaza n'a pas toujours été une bande, elle a été une capitale méditerranéenne, un port extraordinaire. Le port de Gaza, le port d'Antédon, le port antique d'Antédon, exporté vers le reste du monde, Rome, Carthage, Byzance, Athènes, tout ce que ce commerce de l'Orient a porté. Et vous seriez surpris, qu'est-ce qu'il a porté? La production de vin à Gaza. Gaza, jusqu'à aujourd'hui, a de magnifiques vignobles et un très bon raisin. Et donc, depuis l'époque, on produit du vin. Et dans l'exposition, vous allez voir toutes les amphores qui étaient les amphores qui contenaient le vin qui était exporté vers le monde.
Compte tenu de l'image qu'on a aujourd'hui de, des malheurs de la bande de Gaza, il est intéressant d'évoquer ces temps de, oui, de lumière et de prospérité.
Oui, Laïla Chaïd a presque tout dit. Là, il ne me reste plus grand-chose à ajouter, mais je crois qu'elle a mis l'accent sur quelque chose d'essentiel, effectivement. C'est que cette longue période, en dehors d'épisodes tragiques, parce que même sur 1000 ans, il y a eu des épisodes tragiques dans l'histoire de Gaza, on va y revenir d'un mot, on a là une prospérité incroyable qui est due à la richesse du sol et à cette position de carrefour qu'occupe Gaza. Et ce qu'elle dit, par exemple, sur la production de vin, ne fait que croître et s'amplifier avec le temps. Les amphores de Gaza sont surtout des amphores relativement tardives, c'est surtout à l'époque romaine que le commerce du vin de Gaza se fait, et on trouve ces amphores de Gaza de plus en plus nombreuses dans les ports de la Méditerranée, à Alexandrie, à Beyrouth, par exemple, pour prendre deux grands ports qui ont été bien fouillés, où il y a beaucoup de découvertes. Elles arrivent à occuper jusqu'à près de la moitié du nombre des amphores découvertes à Beyrouth, par exemple, pour des périodes tardives comme le 5e siècle.
La géographie des amphores et des monnaies, finalement, c'est une des meilleures façons de mesurer aux différentes époques le rayonnement, oui, d'une ville et d'un port.
Plus d'ailleurs les amphores souvent que les monnaies, parce que les monnaies, ça voyage dans des conditions un petit peu différentes. Est-ce que les amphores, bon, une fois qu'on n'en a plus l'usage, elles restent sur place. Mais effectivement, et donc Gaza a cette image, non seulement elle est un port de transit, comme je disais tout à l'heure, pour les marchandises qui viennent du fin fond de l'Arabie, et parfois de plus loin, de l'océan Indien, mais elle a ses propres productions. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent perdu de vue, mais qui est aussi vrai aujourd'hui, où Gaza regorge de petites entreprises. Enfin là, elles sont malheureusement arrêtées parce que il n'y a plus de possibilité d'exporter, puisque Gaza souffre d'un blocus à peu près permanent. Et quand il est, c'est pas parce qu'on ouvre un jour ou deux jours que les entreprises sont viables. Mais longtemps, elle a été vraiment le fournisseur d'une grande partie des fruits, des légumes qui étaient consommés dans la région.
Circulation nord-sud et est-ouest.
Et est-ouest, hein, exactement. C'est à la fois une zone de production et une zone de transit de marchandises venues d'ailleurs. Et ça, c'est ce qui fait la fortune de la Gaza hellénistique, romaine, et on peut dire byzantine, si on veut, mais enfin, jusqu'à l'époque, jusqu'au moment de la conquête musulmane.
Avec du coup des populations très, très mêlées, les Arabes, les Phéniciens, les Hébreux.
Oui. Alors des populations qui sont très mêlées et que réunissent en fait la langue d'une certaine manière, ou je devrais dire plutôt les langues. Parce que la langue parlée couramment, c'est l'araméen, comme dans toute la Syrie antique. On parle l'araméen, ça ne veut pas dire que l'hébreu a disparu. Il y a beaucoup de gens qui connaissent l'hébreu, mais la langue de circulation, de communication, c'est l'araméen.
C'est la langue du Christ.
C'est la langue que parle Jésus, exactement. Et puis en même temps, il y a une autre langue qui s'est imposée, notamment dans les milieux des élites, c'est le grec. Le grec est devenu la grande langue de communication de ces élites, depuis le nord de la Syrie, mais là, non seulement le nord de la Syrie, on pourrait dire depuis la Syrie, jusqu'au canal d'Otrante, c'est-à-dire jusqu'à la Sicile. Toute la partie orientale de l'Empire romain parle le grec, même là où demeurent des langues indigènes, comme l'Égypte ou la Syrie, le grec c'est la langue de communication. Et donc Gaza a pris sa place en quelque sorte comme une grande cité grecque, comme un grand foyer de culture. C'est un endroit où il y a des écoles de rhétorique, où l'on va suivre des enseignements, c'est un foyer de culture, et pas simplement une ville commerçante active, ce qu'elle est, encore une fois, aussi. Ce que je trouve intéressant dans ce que disait, pour revenir à l'interview de Laïla Chaïd tout à l'heure,
qui était due à Vincent Charpentier, je le précise en passant,
qui était très intéressant et sur lequel elle met le doigt, c'est que les efforts qui ont été faits dans les années 90 pour fouiller Gaza avait non seulement l'intérêt pour l'historien de découvrir des choses qu'il ne connaissait pas, mais d'essayer de redonner à Gaza une identité. C'est-à-dire une identité qui ne soit pas celle simplement d'un camp d'enfermement de Palestiniens. Ce besoin d'identité, les gens de Gaza en ont absolument besoin. Parce qu'ils sont évidemment, eux, perturbés d'une part. D'abord, à Gaza, la population de Gaza, c'est une partie de gens qui sont originaires de Gaza. Il y a toujours eu des Gazaouis, évidemment. Mais il y a aussi une partie de population de réfugiés palestiniens qui, eux, restent très attachés à leur village, à leur ville d'origine, que parfois ils voient d'ailleurs depuis. Ceux qui sont installés au nord de Gaza, les gens d'Ascalon, par exemple, il n'y a plus aucun arabe pratiquement à Ascalon, se souviennent du temps où Ascalon ne s'appelait plus Ascalon et où ils étaient, eux, originaires de ces villages et des villes de ces environs-là. Et donc, l'archéologie vise là à redonner en quelque sorte une sorte de mémoire et d'identité pour cette population qui, il faut bien dire, est un peu en situation de désespérance.
Une autre façon de saluer la Gaza antique, la Gaza grecque, c'est d'évoquer son dieu propre qui est Zeus Marnas. Zeus Marnas, son culte est attesté jusqu'en Syrie et même jusqu'à Ostie. Et
en fait, le culte a suivi ses fidèles, si j'ose dire. Dans la mesure où il y a des gens de Gaza qui vont commercer en Italie et sans doute dans bien d'autres endroits, il y a des cultes, des attestations du culte de Zeus Marnas. Alors ce Zeus Marnas, les anciens lui donnaient une origine crétoise. Marnas, en fait, c'est un mot araméen qui veut dire « notre Seigneur ». Et il est probablement l'héritier, si j'ose dire, en fait, c'est le même, que celui que dans la Bible on appelle Dagon, ou Dogon, ou Dagon, ça varie, là, peu importe le vocalisme ici, qui est le titulaire du temple que fait tomber Samson, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est un dieu de la pluie, donc un dieu de la fertilité, comme souvent les dieux ouest sémitiques. Et ce dieu, il n'est pas propre à Gaza à l'origine, on le connaît par exemple sur l'Euphrate au deuxième millénaire, c'est un dieu qu'on trouve chez les Araméens. Ce Zeus Marnas avait un sanctuaire extrêmement prestigieux, d'abord parce qu'il rendait aussi des oracles, et c'est sans doute un des sanctuaires les plus prestigieux de tout le Proche-Orient dans l'Antiquité. Avec le Sérapéion d'Alexandrie, avec le temple de Jupiter à Baalbek.
Tout à ce niveau-là.
Ah oui, c'est à ce niveau-là. Et je crois que ce qui en apporte la preuve, c'est que lorsque le sanctuaire est détruit sur ordre d'Arcadius au début du 5e siècle, l'émotion chez les païens, ce qui restait de païens, qui étaient quand même très nombreux.
5e siècle après Jésus-Christ, naturellement.
Après Jésus-Christ. Dans le monde méditerranéen oriental, l'émotion a été aussi grande que lorsqu'on a détruit le Sérapéion d'Alexandrie, qui était le temple le plus fameux, probablement, de toute cette région du monde.
Quelque prospère que soit Gaza pendant ces siècles successifs, elle a connu néanmoins des moments très rudes, en particulier deux moments d'invasion des Hébreux qui sont intéressants à évoquer.
On peut dire des Juifs désormais, puisqu'on est après le retour d'exil. À deux occasions, effectivement, Gaza a été annexée à un royaume juif par les Asmonéens qui ont essayé de judaïser la ville, donc au tout début du 1er siècle, mais la ville s'est vidée. Complètement. Les gens ont fui parce qu'ils ne voulaient pas être judaïsés. Et Gaza est donc devenue une sorte de Gaza déserta, ce que disent les textes. Et la ville a été refondée, probablement à peu près au même endroit ou juste à proximité, par les légats de Pompée quelques années plus tard.
On est à peu près en 63, 60 avant.
On est dans les années 60. La ville avait été conquise au tout début du 1er siècle par Alexandre Janet. Donc, ça montre, je crois, que Gaza, elle est la résistante d'une certaine manière. Gaza se sent à ce moment-là comme une cité grecque. Et ce qu'il montre bien, même si la ville ensuite a été incorporée au royaume d'Hérode, mais le royaume d'Hérode, c'est tout sauf un royaume juif. C'est un royaume très cosmopolite. Il y a des zones où les juifs sont très majoritaires, même quasiment seuls, comme la Judée.
Le Hérode du Nouveau Testament.
Le Hérode, le grand Hérode, Hérode le Cruel. Enfin, Hérode le Grand. Mais d'autres zones de son royaume ne comptent pratiquement pas de juifs. Et c'est le cas de Gaza. Mais à la mort d'Hérode, Gaza est détachée du royaume qui est laissé à ses trois fils et rattachée à la province de Syrie. Et là encore, comment ne pas évoquer la situation actuelle? Gaza, c'est toujours cette zone qui est isolée du reste de la Palestine, puisque la Cisjordanie, il n'y a pas de communication directe, eh bien dans la province romaine de Syrie, Gaza, c'était un appendice aussi, tout à fait au sud, qui n'avait aucun contact géographique avec le reste de la province, mais qui appartenait quand même à la province de Syrie, dont le gouverneur était à Antioche.
C'est un effet donc similaire au moment de la naissance d'Israël, qui isole Gaza.
D'une certaine manière.
Il y a un deuxième épisode où les Juifs sont très présents à Gaza, c'est au moment du pillage par ceux qui sont révoltés en 66 après Jésus-Christ, lors de la Grande Révolte.
Alors la ville a été, là aussi, a beaucoup souffert, moins probablement qu'à l'époque d'Alexandre Janet. Gaza fait partie de ces cités grecques qui ont soutenu, évidemment, l'armée romaine contre les Juifs révoltés. La ville avait souffert, évidemment, de la révolte, mais elle a trouvé, en quelque sorte, une compensation lorsque, pratiquement 50 ans plus tard, elle a été le grand marché des esclaves juifs.
Vengeance.
Vengeance, oui. Fait prisonnier à la suite de la révolte de Bar Kochba.
On est à l'époque d'Adrien.
À l'époque d'Adrien. Mais en tout cas, Adrien a joui à Gaza d'une grande popularité, d'une grande célébrité. Il y est venu, probablement, lors de son voyage en Orient en 2930. Et à cette occasion-là, les gens de Gaza ont fondé des concours à la grecque, des Adrianeia, avec une grande foire, avec des épreuves sportives et des épreuves, ce qu'on appelle musicales, c'est-à-dire dédiées aux muses, concours de théâtre, de poésie, de déclamation, etc. Il y avait à Gaza donc de grands concours à la grecque qui étaient suffisamment célèbres pour qu'ils aient le statut de concours isolympique, c'est-à-dire équivalent aux Jeux olympiques, aux concours olympiques. C'est-à-dire qu'ils étaient organisés, en fait, comme les concours d'Olympie.
Encore un signe du rayonnement, de la prospérité, de l'importance de Gaza à cette période, qui devient une colonie romaine. Elle est promue aux grandes colonies romaines au IIIe siècle.
Au IIIe siècle. Alors ça a plus beaucoup de sens à cette époque-là de devenir colonie romaine, mais c'est une marque de déférence, en quelque sorte, de la part des autorités romaines. C'est une manière de souligner l'importance et l'éclat de la ville.
Ensuite, c'est le temps de l'affrontement entre les chrétiens et les païens, Zeus ou le dieu personnel des chrétiens.
Alors Gaza, là encore, j'allais dire, se distingue de ses voisines. On sait que le christianisme s'est répandu relativement vite, mais Gaza est de celles qui ont fermé leurs portes plus ou moins aux chrétiens. Bien sûr, il y a une petite communauté chrétienne à Gaza. Mais Gaza a été, encore une fois, si j'ose dire, Gaza la résistante dans cette affaire. Il y a à Gaza, dans la région de Gaza, apparition des chrétiens probablement très tôt, en tout cas sûrement dès le IIIe siècle.
Mais en très petit nombre.
Et par exemple, on s'aperçoit qu'au début du IVe siècle, lorsqu'il y a les dernières grandes persécutions de Dioclétien, ce n'est pas un évêque de Gaza qui est déporté dans les mines de cuivre du Wadi Araba, mais un évêque de la région de Gaza. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'évêque n'arrive pas à résider à Gaza. Et cette situation dure tout le IVe siècle, à tel point que les gens du port de Gaza, qui a changé, c'est plus Anthédon, c'est Mayouma, c'est un autre port que plus près de la ville, demandent à l'empereur Constantin d'être séparé de la ville de Gaza, de former leur propre cité, donc d'avoir, on pourrait dire, deux communes différentes, alors qu'ils étaient dans la même commune, parce que Gaza reste païenne, alors que la majorité des gens qui habitent à Mayouma, eux, sont chrétiens. Ce sont surtout des commerçants venus d'ailleurs, d'Égypte ou d'autres ports de Syrie, et ils ne supportent pas cette aristocratie gazaoui ou gaziote, comme on pourrait dire aussi bien, qui, elle, reste très attachée à l'hellénisme et au paganisme en général.
D'ailleurs, le grand Julien l'Apostat, qui est empereur de 361 à 363, celui qui a voulu restaurer le paganisme, comme dit Victor Hugo, assez sûr de son âme et de son personnage pour arrêter du doigt tout un siècle au passage, eh bien le grand Julien l'Apostat s'efforce de renforcer les païens en constituant d'ailleurs une réunion des deux cités de
Il réunit à nouveau les deux cités, mais ça ne change rien et Gaza reste en tout cas... d'une part, il faut remettre les choses au point. L'aventure de Julien, elle dure 2 ans.
Oui, mais ça n'empêche pas ça.
Il a tenté quelque chose. Oui, bien sûr, ça n'enlève rien à son éclat. Mais je veux dire que concrètement, les effets sont à peu près nuls. Et on sait en tout cas qu'à cette époque-là, les deux communautés, les chrétiens de Mayouma, les païens de Gaza...
Mayouma, c'est le port. Désormais.
Oui, se combattent parfois justement par jeu interposé, c'est-à-dire que d'un côté, ils défendent à l'hippodrome, par exemple, des factions opposées. Et évidemment, selon celui qui remporte, c'est Marnasse qui a gagné ou c'est le Christ qui a gagné. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les empereurs ne font pas grand-chose pour obliger les gens de Gaza à appliquer les édits impériaux, par exemple interdisant les cultes publics ou obligeant à la fermeture des sanctuaires.
C'est-à-dire tout au long du IVe siècle, dans la suite de Constantin, les empereurs n'ont pas vraiment imposé le christianisme partout.
Non, ils ne l'ont pas imposé, mais il y a quand même de plus en plus d'édits qui interdisent par exemple les cultes publics. Normalement, il y a quand même une fermeture des sanctuaires qui est ordonnée dans les années 390. Or, on s'aperçoit qu'à Gaza, le Marneion continue à fonctionner comme auparavant. Tout simplement parce que, nous dit-on, l'empereur Arcadius, qui règne en Orient, est parfaitement conscient que la ville est très riche. Elle cotise beaucoup, si on peut dire, au trésor impérial. Et il n'a qu'une peur, c'est que les élites de Gaza s'enfuient. Mais la grande période du christianisme à Gaza, elle s'inaugure, le vrai changement, c'est avec l'épiscopat de Porphyre. Porphyre qui arrive comme évêque de Gaza en 395. Il arrive dans des conditions épouvantables. Il n'y a pratiquement pas de chrétiens à ce moment-là, on peut les compter, ils sont 280. Sur une ville qui devait compter plusieurs dizaines de milliers d'habitants, on peut dire que ce n'est pas grand-chose.
Vous avez tous repéré, hein, ça vous a presque nous en récité la liste.
À un moment, il les réunit tous pour prier pour que la pluie tombe.
Et
on nous dit, oui ça a marché, mais ça faisait des mois et des mois qu'il y avait la sécheresse. Et on nous dit qu'à ce moment-là, ils étaient 280. Porphyre est arrivé dans des conditions épouvantables. Il a cru d'ailleurs ne jamais arriver, tellement les gens avaient mis des embûches sur son chemin. Ils avaient rassemblé des arbres, des buissons épineux, etc. Alors on sait tout ça par une vie de Porphyre, écrite soi-disant par Marc le Diacre. Mais peu importe, on ne va pas discuter ici de l'authenticité de la vie.
Nous n'avons plus le loisir, hélas.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Porphyre, c'est à l'époque de Porphyre que la ville va enfin basculer dans le christianisme et surtout que le sanctuaire du Marneion est fermé. Grâce à une intervention de Porphyre lui-même, une ambassade de Porphyre lui-même auprès d'Arcadius à Constantinople et l'aide de l'impératrice.
En somme, Gaza reste chrétienne jusqu'au 7e siècle, c'est-à-dire jusqu'à la domination musulmane. Les choses se sont déjà dégradées au VIe siècle. Il y a une peste bubonique, nous dites-vous, en 541, qui a fait des ravages
dans tout l'Orient, et notamment à Gaza, où les morts ont été, semble-t-il, très très nombreux. Mais en même temps, jusqu'à la conquête islamique, il faut bien le dire, la ville reste une ville extrêmement prospère. Ça reste un grand foyer intellectuel chrétien, avec des rhéteurs très célèbres, comme Dorothée de Gaza, comme Coricius, comme Jean, etc. Et donc, jusqu'à la conquête islamique, et même un petit peu au-delà, mais après c'est une autre histoire et ça ne veut pas dire que la ville disparaît loin de là, Gaza reste l'une des villes les plus brillantes, les plus cultivées, les plus animées de ce secteur, de cette région du monde.
La conquête musulmane est de juin-juillet 637, et on comprend qu'à partir de là, Gaza est devenu nouvel avatar au sens propre, est devenu aussi symbolique pour les musulmans. Écoutez cette dernière archive, Maurice Sartre, c'est Yasser Arafat, le leader palestinien, qui revient d'exil en juillet 1994 à Gaza et qui est magnifiquement accueilli. C'est un extrait qui avait été diffusé dans 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet.
Sur la place du Conseil législatif palestinien à Gaza, ils sont là des milliers qui attendent depuis très tôt ce matin. Je suis là depuis 6 heures, dit la femme, et l'autre ajoute, moi je l'attends depuis tant d'années. Jusqu'au dernier moment, personne n'a cru au miracle du retour dans Gaza la rebelle. L'intifada a commencé ici, c'était normal qu'il rentre ici, dit cet homme. Dans le ciel, un balai d'hélicoptères indique son arrivée imminente. La liesse s'empare alors de la foule. À 16h15, Omar, le policier, mesure comme tous les habitants de Gaza le privilège qu'est en train de vivre cette petite bande de terre. Le vieux est enfin là. Le jour est venu, ma famille, ô ma grande famille. Ma tribu, ô ma grande tribu. Ô mon frère Ahmad Yassine, toi le combattant, toi le prisonnier,
Ô mes frères prisonniers.
Alors Maurice Sarthe, quel est votre commentaire?
Je dois dire que c'est très émouvant d'une certaine manière parce que c'est le retour de l'autorité palestinienne. Je ne sais pas si d'ailleurs elle était déjà considérée comme une autorité palestinienne, mais c'est le retour du contrôle théoriquement ou qu'on croyait à l'époque plein et entier des Palestiniens sur Gaza, qui avait connu bien des vicissitudes puisqu'il y avait eu des efforts pour installer un conseil législatif. D'ailleurs, on dit que ça se passe sur la place du conseil législatif, qui avait été une des institutions qui avait essayé de, en quelque sorte, donner un gouvernement à Gaza et une sorte d'autonomie. Donc, c'est à la fois très émouvant et symbolique aussi du fait que, pour Yasser Arafat, Gaza, c'est bien un élément essentiel de la Palestine. Et puis, dans le fond, c'est presque le retour aux sources de l'histoire, parce que Gaza, c'est effectivement le début même de la Palestine, puisque c'est le cœur même de la Palestine, Philistie, c'est le même mot.
Merci beaucoup, Maurice Sarthe. Merci. L'article sur lequel, principalement, nous avons fondé notre conversation, qui s'appelle « La splendeur oubliée de Gaza », l'article de la revue L'Histoire, est dans le numéro 340 de mars, et sera disponible dans quelques jours en kiosque. Je voudrais rendre hommage aussi à votre ouvrage considérable qui s'appelle « D'Alexandre à Zénobi », qui est paru chez Fayard en 2003. C'est un survol de toute cette période dans le Proche-Orient.
Oui. Ce que j'ai essayé de faire surtout, c'est de réintégrer l'histoire, y compris de la Palestine, là encore au sens géographique j'entends, c'est-à-dire des terres d'Israël dans l'ensemble de l'histoire de la Syrie, ce qu'on fait rarement parce que, curieusement, soit on fait de l'histoire des Juifs, soit on fait l'histoire du reste. Et je crois que les deux histoires sont indissolublement liées.
Merci Maurice Sarthe, merci. Samedi prochain, l'actualité nous tournera vers la justice, puisqu'il y a le projet que vous connaissez de réforme de l'équilibre de la justice avec une éventuelle suppression des juges d'instruction. Eh bien, nous parlerons de ceci au XIXe siècle avec Frédéric Chauveau qui en est le spécialiste. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau, avec Meryl Moneghetti, Patrick Molinier, Augustin Nemo et pour les archivina, Véronique Jolivet.